Bonjour à chacune, à chacun. Et oui, vous avez remarqué, au travers de ce témoignage de Fifi, comment, dans des choses du quotidien, petites ou grandes, Satan cherche à atteindre notre âme, à nous énerver, à nous irriter contre les autres, contre la vie. Il cherche à nous enlever notre joie. Et le texte que nous avons lu et que nous allons relire, Éphésiens 6, nous parle de ce combat. De ce combat du chrétien contre des personnes bien réelles, mais qui ne sont pas des personnes physiques, qui sont des esprits, et dont Satan est le chef. Et nous savons que Dieu n'a pas seulement créé des végétaux, des animaux, des êtres humains, mais il a aussi, et avant nous, créé des êtres spirituels, des esprits, des anges. Et parmi ces anges, certains se sont révélés contre Dieu. Alors c'est une sphère que nous ne voyons pas, parce qu'elle n'est pas matérielle, mais elle n'en est pas moins réelle. Et ce passage d'Éphésiens 6, verset 10 et suivant, nous invite à prendre conscience d'un combat que les esprits méchants, dans cette sphère immatérielle, mènent contre l'être humain. Alors on va le résumer en disant que c'est Satan, mais il n'est pas seul. Satan qui signifie l'adversaire. Satan c'est un mot qui veut dire adversaire, l'adversaire. Alors, Satan est-il en guerre contre les êtres humains? J'ai envie de dire non. Il les a déjà vaincus. L'être humain est esclave du péché. Et parce qu'il est esclave du péché, Satan n'est plus en guerre contre l'être humain. Il est juste son despote. Il est son tyran. Il est son maître. Et ce monde matériel, avec l'être humain en tête, est sous la domination des esprits méchants. Il est le prince de ce monde. Et Satan continue de se régaler, de tyranniser l'être humain, en mettant un petit coup quelques meurtres par-ci, quelques viols par là, une petite guerre ici, un petit divorce là, un peu de jalousie, un peu d'orgueil, un peu de mensonge. Oh là là, mais qu'est-ce qui se régale? Et on voit les ravages qu'il fait parmi les êtres humains. Seulement voilà, Dieu aime sa créature, aime l'être humain. Il n'a pas voulu laisser l'être humain avec comme seule option ce despote tyrannique et méchant. Il a voulu sauver. Et Dieu a mis en place un plan pour pouvoir nous donner une autre possibilité que de vivre dans les ténèbres, que d'être esclave des ténèbres, et que d'être les sujets du royaume de Satan. Et ce plan, il l'a accompli en se faisant homme, en Jésus-Christ. Il est venu, il a marché dans l'exemple de ce que nous devrions vivre en sainteté de vie, en perfection, en beauté, sans jamais commettre le moindre péché. Et les péchés que nous avons commis, pour nous les pardonner, pour les effacer, eh bien, il les a payés de sa propre vie. Il a donné sa vie pour eux. Et dès lors, l'être humain, quand il entend parler de l'évangile, de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, il entend parler de cette possibilité de passer de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume de Jésus-Christ. il a une décision à prendre. Et chez beaucoup de personnes qui entendent de la parole de Dieu, un combat intérieur commence à se livrer. Et là, Satan se réveille. Parce qu'il n'a pas du tout envie de perdre des sujets. Il n'a pas du tout envie de perdre des personnes qui sont et qui resteront esclaves du péché. Il dit, oh là 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 là, il y a l'évangile de Jésus là qui risque de les libérer, qui risque de leur ouvrir les yeux, qui risque de les transporter dans le royaume de Jésus-Christ, qui est hors de question. Et la parabole du semeur nous rappelle que Satan vient et il enlève la parole chez ceux qui l'ont entendu, qui ont prêté l'oreille. Et il est là, et il ne veut pas. Mais la parole de Dieu a vaincu Satan. Jésus-Christ a vaincu Satan. Et ce que Jésus-Christ a mis en place, par ces personnes sauvées, transformées, qui passent du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ, c'est l'Église. Et il a dit de l'Église que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et Satan est là, et son seul levier, c'est la décision qu'un être humain va prendre. Alors il tâche d'influencer. Il tâche de troubler, il tâche de perturber, il tâche d'embrouiller notre raisonnement, notre cœur, nos émotions, pour ne surtout pas que nous venions à Jésus pour être sauvés. Mais bien d'entre nous, nous sommes un jour revenus à Jésus-Christ. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous avons dit à Dieu, aujourd'hui je veux devenir son enfant, je veux te suivre, je veux t'obéir, je prends cette décision, je veux passer des ténèbres à la lumière. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu les as portés pour moi. Et désormais, je prends cette décision de te suivre. Je te prends comme mon berger, comme mon maître. Et nous sommes passés de l'esclavage de Satan à être enfants de Dieu, serviteurs de Christ. Alors, on est passé dans l'autre sens. Et comme on est dans l'autre camp, ceux qui sont nés de nouveau, enfants de Dieu, chrétiens, c'est-à-dire qui ont accepté Jésus-Christ comme le sauveur, le maître de leur vie, alors là, oui, Satan va faire la guerre. Oui, il y a une guerre qui va se livrer contre celui qui, finalement, que Satan dit, celui-là, il m'a quitté. Eh bien, moi, maintenant, je vais faire la guerre. Et je vais essayer de lui gâcher la vie. Je vais essayer de lui pourrir la vie. Ah, il a été sauvé par Jésus-Christ. Et bien moi, si je peux lui enlever sa joie d'être sauvé, je vais le faire. Ah, il a réussi à échapper à mon filet du péché. Et bien si je peux le faire retomber dedans, je vais le faire. Ah, il se sent aimé par Jésus-Christ. Il se sent en sécurité. Et bien si je peux lui mentir et lui faire croire le contraire, je vais le faire. Pour qu'il devienne, oh oui, un chrétien. Mais un chrétien triste, un chrétien découragé, un chrétien qui retourne au péché. Et surtout, un chrétien inactif. Parce qu'un chrétien actif pour Dieu, qui sert Dieu, qui fait avancer le royaume de Dieu, ça fait reculer le royaume de Satan. Alors si Satan pouvait neutraliser un chrétien actif pour Dieu, ça lui suffit déjà bien pas mal. Alors, nous allons relire ce texte d'Éphésiens, et ce matin nous allons en étudier qu'une partie. Une deuxième partie dimanche prochain. Verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Voilà, nous arrêterons notre lecture ici pour ce matin. Nous allons voir de quel type de guerre il s'agit. Nous allons voir ce matin par qui cette guerre est menée. Nous allons voir comment le chrétien peut combattre avec les armes de Dieu pour ne pas être vaincu. Alors, le verset 12 nous dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». C'est une expression pour dire contre les êtres humains. Hein? On est fait de chair et de sang. Ça c'est nous, l'être humain. Et Dieu, attention, notre combat, notre guerre, elle n'est pas du tout contre les gens. Elle n'est pas contre mon conjoint qui m'énerve, contre ma mère, contre mon voisin qui prend ma place de parking, contre ce gouvernement. Non. La guerre, elle n'est pas contre la chair et le sang, elle est contre. Et là, j'ai plusieurs expressions qui désignent plusieurs catégories. Nous savons qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Mais il y a aussi plusieurs catégories d'esprits méchants, avec des rôles. On va pas étudier ça en long, large, en travers, à part on en dit peu, on voit quelques aperçus, hein, parfois, en Daniel par exemple, ou en Jude. Mais il y a ici ce qui est appelé les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux. Et cela résume l'adversaire spirituel. Un être qui n'est pas de chair et de sang, mais qui est bien réel, qui sont bien réels, dans l'immatériel, et qui agit, et qui contrôle ce monde. De quel dire s'agit-il? La guerre qui m'est faite est une guerre contre mon âme. Contre mon âme. Parce que je suis passé de l'esclavage de Satan à la pureté. Je suis passé d'ennemi de Dieu à être son enfant adoptif. Je suis passé d'être un pion de Satan dans ses tactiques et dans ses, comment dire, les ficelles de l'humanité. Je suis passé de ce plan de Satan à être serviteur de Jésus-Christ. Alors, oui, le camp des ténèbres va attaquer mon âme. Pour essayer de faire de moi un chrétien rétrograde, un chrétien inactif, un chrétien qui retombe dans le péché, nous l'avons dit. Il est utile, dans le contexte actuel, de bien préciser que cette guerre que nous avons à mener, ce combat, ça n'est pas contre les hommes. Pourquoi je parle du contexte actuel? Parce que nous parlons du djihad. Nous parlons de cette guerre sainte. Nous parlons de ce combat religieux pour défendre sa foi ou établir une sphère d'influence, une sphère politique, etc. Est-ce que les chrétiens sont appelés à un tel combat? Non. Peut-être que les chrétiens, j'ai dit, c'est pas contre la chair et les sangs qu'on a lutté. C'est un combat spirituel. C'est pas un combat sur la terre, c'est un combat dans cette sphère immatérielle de l'au-delà. Alors, À chaque fois que l'Église a pris les armes au nom de Jésus-Christ, eh bien, elle a pris les armes sans Christ. Et dans l'histoire, il y a eu des moments où, au nom de Jésus, on a fait des guerres. Eh bien, c'était des guerres sans Jésus. Parce que Jésus, quand Pierre a pris son épée, il a dit « repose son épée dans le fourreau ». Le chrétien n'est pas appelé à être un djihadiste, je dirais, par les armes physiques, à s'engager dans des guerres ou dans des, je dirais, des combats d'influence politique, et j'insiste sur cela, avec cette notion, cette très bonne notion de séparation de l'Église et de l'État. Pas toujours des armes physiques, mais c'est ces influences politiques, ces jeux de pouvoir. Ah oui. Eh bien, quand l'Église et l'État ne sont pas séparés, ça sent toujours très mauvais. Les chrétiens n'ont pas à être là pour établir une société chrétienne. Notre combat, il n'est pas sur cette terre. Notre combat, il n'est pas qu'une nation devienne une nation dirigée par des chrétiens avec des lois chrétiennes favorables aux chrétiens. C'est pas ça du tout. Là, on est loin du compte. Par contre, il y a des sphères célestes, Satan et la tête, qui sont en guerre contre mon âme. Et c'est l'avantage. Et si j'ai un combat à mener, ce n'est certainement pas contre les gens, mais c'est contre Satan qui cherche à toucher mon âme. Alors, à notre niveau quotidien, on a parlé de l'histoire, hein, on a vu des nations se lever et faire la guerre au nom de la religion, au nom de Jésus, et on a vu des sphères politiques avec des mélanges entre État et Église, et ça n'a jamais rien apporté de bon. Mais nous, à notre niveau quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Eh bien, ça veut dire que ce n'est pas les personnes qui me causent des tracas, ce n'est pas les personnes qui me provoquent, ce n'est pas les personnes qui me font du mal qu'il faut combattre. Le texte dit que mon adversaire n'est jamais la personne visible que j'ai en face de moi. Mon adversaire, ce n'est pas la personne visible que j'ai en face de moi. Mon adversaire, c'est dans la sphère invisible. Ça, c'est mon vrai adversaire. Et c'est là où souvent nous nous trompons. On vit des situations, des problèmes au travail, des problèmes dans la famille, des problèmes dans la société, dans le voisinage, on a affaire à des gens, et on croit que nos ennemis, ou l'ennemi à l'adversaire, à neutraliser, ce sont les gens qui posent des problèmes. Non. Le vrai combat, il est bien plus haut. Et ce texte nous invite à élever le niveau du combat. Nous, on vole au ras des pâquerettes. Nous, on est très terre à terre. On est sur le plancher des vaches. Alors, on a l'impression que dans notre quotidien, ce qui touche mon âme, eh ben, c'est les autres, c'est ceux que je vois. Nous, on est un peu comme le disciple Thomas, on ne croit bien que ce qu'on voit. Alors, comme je vois mon voisin qui me pique ma place de parking, eh bien c'est lui mon adversaire. Lire celui-là, il faudrait faire quelque chose. Et je ne m'aperçois pas que derrière mon voisin, il n'est qu'un pantin. Il n'est qu'un pantin dont Satan tire les ficelles. Vous avez déjà vu des pantins ou des marionnettes? Alors nous, dans le visible, dans le domaine du visible, on voit le voisin qui s'agit, qui garde sa voiture au mauvais endroit. Oui, ça c'est ce qu'on voit. Nous, on ne voit pas les petites ficelles qui sont tirées par l'ennemi. On ne voit pas la tactique de Satan qui dit, tiens, oh, ce voisin, je vais l'utiliser. Je ne peux pas parler déjà mon esclave, il est esclave du péché. Tiens, je vais utiliser son côté un peu, tellement employé, mais, ouais, je peux avoir un voisin intrusif, un voisin qui est, je vais utiliser un petit peu son côté un peu comme ça, je vais tirer les ficelles, parce que moi, je vais atteindre Adrien. Le voisin, il s'en fiche, hein. Mais il veut atteindre le chrétien au travers du voisin. Et il tire les ficelles du pantin. Et nous, on voit le pantin, on dit, c'est lui mon problème. Je vois mes enfants qui m'énervent, je dis, c'est mes enfants le problème. Ma femme, elle me voit qui m'énerve, elle dit, c'est mon mari le problème. Oui. Oui. Dans le domaine du visible, effectivement, c'est ce qui se passe. Mais le Seigneur nous dit, attends, ne crois pas que ton combat, il sera faire. Ne crois pas que tu as à combattre contre ton conjoint, contre tes voisins, contre ton patron, contre ceci, contre ça. Lève un petit peu les yeux et vois au-delà que dans le domaine spirituel, il y a quelqu'un qui tire les ficelles pour toucher ton âme. Et regarde, il réussit pas trop mal, hein. Alors, les méthodes de Satan sont diverses. Il va utiliser les autres pour nous énerver, nous irriter, nous provoquer, ou nous tenter, nous influencer. Il va utiliser aussi la peur. Il va utiliser notre convoitise. Il va utiliser même le bien-être. Hein, la recherche du bien-être, de la satisfaction, pour nous rendre les chrétiens inactifs. Bon, Satan, il a plein de tactiques pour arriver à ses fins. S'il peut nous rendre inactifs pour le service de Dieu, s'il peut nous avoir dans le péché, s'il peut couper notre communion avec Dieu, il le fera. Mais il va simplement utiliser les portes d'accès que nous lui disons. Et ça, c'est important. De comprendre qu'il ne peut qu'utiliser les portes d'accès qu'on lui laisse ouvertes. Regardez avec moi, Éphésiens 4, vous tournez juste une ou deux pages, Éphésiens 4, verset 26, 27, c'est un exemple. Cet exemple, c'est la colère. Il dit, au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Satan va pouvoir vous atteindre que là où on lui laisse des portes ouvertes. Peut-être une colère non réglée, mal réglée, une colère qui dégénère. Ailleurs, en 2 Corinthiens 2, on voit un autre exemple. 2 Corinthiens 2, je lis pour vous, si vous n'avez pas le temps de tourner dans votre Bible les pages, 2 Corinthiens 2, verset 10, il dit, à qui vous pardonnez, je pardonne. Est-ce que j'ai pardonné? Si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. De quoi il s'agit là? Il s'agit du fait de pardonner ou de ne pas pardonner. Et Paul est en train de dire afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Voilà peut-être une porte que j'ai laissée ouverte. Je ne pardonne pas. Satan saura trouver cette porte pour atteindre notre âme. Alors, heureusement, nous revenons à notre texte, Éphésiens 6, et nous voyons que dans cette guerre, nous ne sommes pas désarmés. Nous ne sommes pas sans force. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse résister et tenir ferme. Il n'est pas dit de commencer à aller combattre Satan dans les sphères spirituelles, faire des exorcismes, de commencer à essayer de faire des grandes choses. Et non, contente-toi de résister, de tenir ferme. En Jacques, il est dit résister au diable et il fuira loin d'eux. Alors, d'abord, Dieu nous a donné sa force. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il y a une force surnaturelle qui fortifie le faible. À tel point, en 2 Corinthiens 12, que Paul lui-même dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est dans ces moments-là que je vois la puissance de Christ qui repose sur moi. Oui, nous pouvons venir nous fortifier par sa force toute puissante. Comment? Je nous renvoie aux premières prédications d'Éphésiens sur le fait de s'asseoir avec Jésus. Allons nous asseoir avec Jésus pour être assis en lui, pour nous être fortifiés en lui, pour être remplis. Allons nous asseoir avec Jésus pour renouveler nos forces. Et avec foi, nous remplir de sa force toute puissante. Et le Seigneur ne ment pas, le Seigneur tient ses promesses, il est celui qui porte. Amen. Et deuxièmement, eh bien, il nous donne des armes. Mais il nous demande de nous en revêtir. D'abord, il y a une force divine à disposition, mais il y a une invitation à dire, oui, une force divine, fortifiez-vous. Venez vous fortifier. Oui, il y a des armes. Ben, revêtez-les, quoi. Revêtez-les. Et je pourrais être un chrétien qui ne vient pas se fortifier dans le Seigneur et qui ne revêt pas les armes. Ben, alors, comment je vais faire? Je vais me faire éclater la tête. Hein? Alors, les armes. D'abord, une première question. Est-ce que les armes de Dieu m'intéressent? Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens que les armes de Dieu n'intéressent pas parce que ces chrétiens ne font pas la guerre. Ils ne font pas la guerre. Non, non, moi, oula, je me laisse vivre. Oh là là! Moi, je veux une vie pépère, tranquille, une vie chrétienne. Je suis sauvé, tout va bien. Combat, combat. Alors forcément, les armes de Dieu ne nous intéressent pas quand on ne fait pas, quand on n'entre pas dans le combat que Satan nous livre. Vous savez, souvent, chaque année, en classe avec mes élèves, on fait une période où on fait de la lutte. C'est très intéressant, parce que dans la lutte, chez les maternelles, en fait, il y en a qui n'ont toujours pas compris qu'en fait, il faut opposer une résistance. Alors, vous avez un jeu, la tortue, elle a quatre pattes, et puis il doit renverser la tortue, et il y en a, la tortue, elle a juste à pousser les petits doigts, vous voyez, et hop, il roule sur le côté. Mais arrête de se laisser faire. Non, le but du jeu là, c'est de résister, c'est de t'apprendre à t'opposer, voilà, il essaye de se renverser, résiste. Vous en avez toujours à la fin, ben, c'est pas rentré. L'autre, il arrive, il pousse, il fait juste 500 portes, hein, et hop, il roule. Malheureusement, on est beaucoup des chrétiens comme ça. Satan n'a pas besoin de nous pousser très fort et là, on roule. On n'est pas dans l'opposition. On se laisse pousser et renverser par Satan sans lui résister. C'est pour ça qu'il dit résister. C'est pas parce qu'on est des chrétiens qui par nature nous résistons. S'il est obligé de nous dire de résister, c'est que la plupart du temps, on se laisse faire. On a une incitation au péché, hop, on se laisse faire. Il y a une épreuve qui nous décourage, hop, on se laisse décourager. On se laisse rouler, renverser. Alors, le Seigneur nous dit, non, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Résister dans le mauvais jour. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alors les armes de Dieu. Ce matin, nous allons en voir trois et nous nous arrêterons là. Nous commençons avec la vérité pour ceinture. Satan est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Même Jésus a dit quand il ment, il parle de son propre fond. De sa nature la plus profonde. Alors, puisque nous sommes en guerre dans ce combat que Satan nous livre, et qu'il est le père du mensonge, il est bien évident que la première chose qui commence, c'est de prendre la vérité pour ceinture. Si Satan est le père du mensonge, alors, tout à l'opposé, il va falloir que moi, ce soit la vérité qui me tienne lieu de ceinture. La ceinture, c'est ce qui nous permet de nous tenir droit, de marcher, d'avoir les reins bien ancrés, bien solides, pour ne pas être atteint, justement, et marcher de travers en étant coincé. Et pour cela, pour nous tenir solidement dans la vie chrétienne, la base, c'est la vérité. Aucune place pour le mensonge. Si dans ma vie, il y a une place pour le mensonge, je n'ai pas la vérité pour ceinture. On le prend comme on veut. Mais si j'accepte que dans ma vie, il y a des demi-vérités, des choses pas tout à fait vraies, comment vous voulez qu'on tienne droit? On est déjà dans le domaine du père du mensonge qui parle de son propre fils. Alors le chrétien, il doit être dans le vrai. Il doit dire la vérité. Il doit encourager la vérité. Il doit dénoncer le mensonge. Aucune place pour les combines, les supercheries, etc. Je vous donne un exemple. L'an prochain, il va y avoir un peu de mouvement dans notre école, dans les directions, etc. J'aimerais bien avoir un poste de directeur. Ma directrice part à la retraite. Et le directeur d'en face, chez qui ça se passe mal, va venir chez nous. Bon, il va un barème écrasant, il me passera devant. Alors, dernièrement, il y avait toute une combine, comme proposée. C'était que ma directrice, avant qu'elle parte en retraite, tombe en maladie, 6 mois, et hop, je prends l'intérim. Et comme je prends l'intérim, oh, je suis prioritaire. Pas mal, ça. Hein? Comme ça, je peux avoir le poste. Et mes collègues disent, merci, vas-y, et tout, regarde, elle se met en maladie, tu prends l'intérim, et pop, pop, hop, il est cuit. C'est prioritaire. Alors, ça arrive, hein, parce qu'elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. C'est ça? Mensonge. Et si je le fais, je ne me tiendrai pas dans la vérité. Alors, avant-hier, une de mes collègues a dit, non, moi, c'est du mensonge, je ne marche pas dans ces combines. L'énervée me dit, ah, mais ça n'a pas fini avec tes... Comment elle m'a dit? Avec ses valeurs à la POL. Un gros mot. Hein. Avec ses valeurs. Oui, mais le problème, c'est que si je mets le pied dedans, comment je vais diriger plus tard l'école? Quand il faudra être une vraie, ne pas mentir, marcher dans le vrai, et que je vais dire plus tard à ce que je dirigerai, ah, écoutez, là, c'est pas les règles. Eh, dis donc, ça t'a pas étouffé de prendre une direction en mentant, hein. Ah!
abattre.
Le mensonge paralyse l'esprit de ma direction. Et là, Satan, il sera bien régalé. Vous voyez? Alors non, il n'y a pas de combine. On marche dans la vérité. Et c'est vraiment important que chacun de nous se dise, je dois être dans la vérité. Dans mes relations avec les autres, je dois parler vrai. Je dois être hypocrite. La vérité sur moi ou la vérité que quelqu'un a besoin d'entendre? Cette ceinture de la vérité, c'est aussi rester droit parce que je sais que je suis dans le vrai. Vous savez, on peut être agité, on peut pousser, mais quand on sait qu'on est dans le vrai, alors ça nous aide à résister solidement. On sait qu'on ne se trompe pas. Quand on obéit à la parole de Dieu, des fois on peut se poser la question, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Que dit la parole de Dieu? Ah, ça va, je suis dans le vrai. Alors si je suis dans le vrai, c'est une ceinture qui me tient droit. Enfin, la ceinture de vérité, c'est un engagement sincère pour Dieu. Que faisait le soldat? En fait, le soldat avait une tunique, une longue tunique. Seulement pour combattre, c'est pas très facile. Et on va s'empêtrer les pieds dans la tunique, ça va gêner les mouvements de course, etc., des combats. Alors, on relève la tunique et on met une ceinture pour ceindre cette tunique autour des reins. Et donc, en fait, cette ceinture permet, en fait, l'esprit. Vous êtes prêt à combattre, vous êtes prêt à courir, sans avoir une robe là qui vous gêne et dans laquelle on va se prendre les pieds. Hein? Alors, le problème c'est quand on dit « Oh soldat, tu es prêt ?»« Ah ben, toujours prêt, chef !» Qu'est-ce qu'elle fait? Tu fais quoi dans ta tunique là? Ah non, mais je suis prêt, hein. Ben, hop, tu relèves ta tunique, si maintenant faut courir, t'es pas prêt. Oui, mais ben, tu t'engages comme soldat ou tu t'engages pas comme soldat? Regardez avec moi dans 2 Timothée 2, verset 2. Et là, ça s'adresse à nous en tant que chrétiens. Est-ce que notre engagement pour Dieu est vrai? Pas de la vérité pour ceinture. Est-ce que notre engagement pour Dieu est vrai? Hein? Est-ce que nous sommes dans un vrai engagement? D'accord? Est-ce que notre engagement est vrai? Et est-ce que nous sommes dans un vrai engagement? 2 Timothée 2, verset 3, dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Voilà. Est-ce que je suis réellement engagé? Il dit « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. » Cette tunique, elle va te gêner les jambes. Quand il faudra courir, tu vas t'empêtrer dedans, ça t'embarrasse. Est-ce que tu as mis ta ceinture? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment engagé? Est-ce que ton engagement pour Jésus-Christ, est-ce que c'est un vrai engagement? Le Seigneur nous demande d'être sincères. À l'une des églises d'Apocalypse, il a dit, tu es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et là, ça s'adresse à nous. Est-ce que mon engagement, il est vrai? Ou est-ce que je suis à moitié engagé, je suis tiède? C'est-à-dire, je suis quand même parmi le rang des soldats. Mais alors, j'ai pas mis ma ceinture. Les chaussures sont en train de sécher au soleil. Et puis, vous voyez, on n'est pas prêt, quoi. On n'est pas engagé. Mon engagement est vrai. Nous passons à la cuirasse de la justice. Donc, on a vu la vérité. Si vous avez un mensonge dans votre vie, ou une demi-vérité, il faut régler. Il n'y a pas de place pour le mensonge. Quand on laisse du mensonge dans notre vie, Satan va se régaler de cette zone de mensonge dans notre vie, et il atteindra notre âme. La cuirasse de la justice. La justice, c'est ce qui juge, c'est ce qui arbitre, c'est ce qui sépare entre le mal et le bien. Hein? Quand il y a un juge, eh bien c'est le juge qui va trancher. Est-ce que telle action était coupable, ou est-ce que telle action n'était pas coupable? Coupable ou non coupable? Voilà. On tranche entre le bien et le mal. La justice, elle fait la part entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc déjà, la cuirasse de la justice, c'est que nous rejetions ben, le péché, tout simplement, le mal. Il n'y a pas de place pour le péché dans la vie du chrétien. Seulement si il y a des certains péchés, je m'en accommode, je les laisse, je ne suis pas tout à fait au clair, hein, un peu difficile. Je n'ai pas mis ma cuirasse de la justice. C'est comme si on veut passer devant le juge, on dit, monsieur le juge, vous pouvez examiner tous les domaines de ma vie. Devant l'expert comptable, tous les domaines de ma comptabilité d'entreprise. Allez-y, mettez le nez, vous ne trouverez rien. Est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? Et le Seigneur veut qu'on soit vraiment interpellé. Il nous dit, rejetez le mal, accrochez-vous fortement au bien. La justice. Mais ça va plus loin que ça. La justice, c'est faire ce qui est juste. En toute situation, faire ce qui est juste d'être pur. C'est faire ce qui est juste, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Faire ce qui est juste. Par exemple, dans ce chapitre, dans ce même chapitre, le chapitre commence en disant « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. » Voilà. Et Dieu nous dit, ben voilà, il y a des choses qui sont justes et sont faites. Et ça nous donne, si vous voulez, l'idée que la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est exactement ce qui est juste d'être fait. Dieu, dans sa parole, nous donne des tas de choses pour qu'on comprenne quelle est sa volonté, pour qu'on comprenne quelle est la manière juste de vivre, de parler, d'agir, de réagir, de penser. Et voilà pourquoi, ailleurs, il dit, on respecte que tout ce qui est juste soit l'objet de vos qui est juste. Là, il dit ensemble, laissez à vos parents, car cela est juste. Alors, si je me pose 36 000 questions, oui, mais mes parents, tu les connais pas, et non, enfin voilà, quoi, obéir, et de quel droit, et pourquoi, enfin, écoute, Seigneur, il a dit, cela est, c'est ce qui est juste que tu fasses. Alors, fais-le. Fais ce qui est juste d'être fait. Il parle pas aux enfants, parle aux parents. Une père méritait pas vos enfants. Ce qui est juste, c'est que je ne mérite pas mes enfants. Ensuite, il parle aux employés. Ensuite, il parle au patron. Avant, il avait parlé aux épouses, aux conjoints, aux maris, etc. Et on voit bien que Dieu nous montre sa pensée. Dieu nous montre ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qui atteint la bonne cible. Sauf la mauvaise. On vise juste. C'est bien que, dans tous les détails de notre vie, il y a une manière juste et une manière injuste. Même y compris quand on mange, quand on boit. Pas pour rien que Dieu a dit, dans les Épîtres, Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que je peux manger d'une manière qui n'est pas juste? Oui. Oui. Quand on se dispute pour qui a la pourchette de veau la plus grosse. Oui, le plus gros chemin. Quand on est en train de mesurer les verres de coca pour savoir si ma buteur n'a pas 3 millilitres de plus, et que je suis qu'un scandale. Par exemple, hein, vous voyez, je rigole, mais ça va chercher des choses plus profondes. Hein? On peut faire des choses justes ou pas. Par exemple, j'ai entendu des gens qui disaient oui, moi quand j'invite un tel, voilà, quand même, je mets les petits plats dans les grands, je sors une bonne bouteille de vin, voilà. Quand il m'invite, il fait des nouilles et pourtant c'est pas les moyens qui lui manquent. Bon, c'est les moyens. Mais en plus, c'est pas. Donc on a du mal. Et en fait, la prochaine fois que je reçois, boîte de conserve étiquette. Allez, nous, voilà. Je vais faire pareil. Mais toi, fais ce qui est juste. Si le Seigneur te montre d'accueillir quelqu'un, de l'inviter, accueille-le de la manière juste devant Dieu pour toi. Et s'il ne fait pas la même chose, c'est pas ton problème. Toi, fais ce qui est juste. Mais alors, ça va encore plus loin. Parce que la cuirasse de la justice, elle protège le ventre, elle protège le cœur, n'est-ce pas? Hein, la cuirasse est pour protéger la partie ventrale et le cœur. Dans la pensée juive, le ventre, les entrailles, ce sont les émotions. Et le cœur, c'est le centre des décisions et des raisonnements, des pensées. Mais des décisions en particulier. Et souvent, nos émotions ne nous conduisent pas à faire ce qui est juste d'être fait. Si j'écoute mes émotions, je ne vais pas forcément faire ce qu'il faut être fait. Par exemple, si j'attends d'avoir envie de me lever à 14 du matin pour aller au travail, je risque de ne pas aller souvent au travail. Si j'attends d'avoir envie de ramasser le vomi du chat, je risque de jamais être ramassé. Parce que nos émotions ne nous poussent pas toujours à faire ce qui est juste. Ouais, ben ce matin, j'ai pas envie d'aller à l'église. Pas très envie. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? La parole dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ouais, mais je n'ai pas très envie. J'ai plutôt envie aujourd'hui d'aller, je sais pas, rester au lit, faire un tour de vélo, aller me balader. Et le Seigneur, dans bien des directions, nous montre ce qui est juste. Et ça, c'est une sauvegarde. Ça, c'est la cuirasse. Lorsque nous pouvons nous dire, bon, j'ai pas forcément envie, mais je vais faire ce qui est juste d'être. J'ai pas forcément envie d'obéir à mes parents. Mais Dieu me dit que c'est juste de le faire comme je vais le faire. J'ai pas forcément envie de pardonner à celui qui m'a fait du mal, mais le Seigneur me dit que c'est juste de le faire. Donc, je vais faire ce qui est juste d'être fait. Et lorsque nous avons cette cuirasse-là, ça nous oublie. Et notre cœur est protégé. On termine par les chaussures. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Alors, de quoi ça nous parle? Visez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est formidable. On a parlé tout à l'heure de Satan, de son emprise sur le monde, de comment les êtres humains sont dans son royaume, esclaves du péché, il en est le tyran. Mais on a vu que Dieu a donné Jésus-Christ pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, pour être sauvé. C'est ça l'évangile. Et l'évangile, c'est comment Dieu peut transformer des vies. Comment Dieu peut sauver et arracher à Satan ses prisonniers pour en faire des enfants de Dieu libres. L'évangile, c'est comment Dieu va apporter la paix dans un cœur, dans une vie. Et cela concerne d'abord, c'est vrai, le monde qui n'est pas encore passé des ténèbres à la lumière. Ça concerne les gens qui n'ont pas accepté encore Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, mais ça concerne aussi les chrétiens. Parce que l'évangile continue de nous transformer. Quand on commence la vie chrétienne, on a commencé la transformation. Mais l'évangile va continuer de nous transformer. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle d'une transformation radicale de l'être humain. Pour passer de la prison du péché à la sainteté et à sa liberté. Alors, on en revient, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le combat, nous avons affaire à des gens qui vont nous énerver, qui vont nous provoquer, etc. Oui, mais nous avons affaire à des gens que Dieu veut sauver. Et quand on dit seul, ces personnes sont des chrétiens qui sont déjà sauvés. Nous avons affaire à des personnes que Dieu veut continuer de transformer. C'est-à-dire, lorsque l'évangile est pleinement dans ma conscience, lorsque je prends pleinement conscience que Dieu est dans une œuvre de transformation des gens qui m'entourent, je ne vais pas m'arrêter au pantin agité par Satan. Mais je vais voir au-delà, je vais voir l'œuvre que Dieu veut faire pour sauver quelqu'un, pour transformer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est aussi moi. L'évangile est aussi en train de me façonner, de me transformer. Et Dieu utilise les combats qui sont ce qu'ils sont pour travailler mon être intérieur. Et m'amener à davantage de ressemblance avec Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Nous devons avoir à nos pieds les chaussures du zèle de l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord un chrétien qui ne parle pas de Jésus aux autres. Un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui a complètement perdu de vue que Dieu veut sauver des hommes et des femmes. Qui veut les arracher au royaume de Satan. Nous, on est pédants, on est tranquille, on est dans le royaume de Jésus, les autres aussi. Eh bien, un chrétien qui n'évangélise pas est un chrétien qui perd sa joie. C'est pas pour rien qu'il a marqué le mot zèle. Le zèle que donne l'évangélité. Alors, on peut soi-même être bien, hein, avec Dieu, on marche correctement, etc. Mais, la transformation que Dieu veut opérer dans les vies, ça nous intéresse pas. Et bien, on perd notre joie. Quand l'œuvre que Dieu veut faire dans le cœur de l'humanité ne nous intéresse pas, on est un chrétien en zèle. Alors, nous sommes invités à vraiment prendre part, réaliser et prendre part que Dieu veut changer des vies, que Dieu est en train de changer des vies. Quand je suis ici dans l'église et qu'il y a des gens qui commencent à m'agacer ou quoi, est-ce que nous avons à lutter contre la chair et le sang? Non? Ou est-ce que Satan n'est pas en train d'essayer d'attaquer mon âme au travers des uns et des autres? Si. Mais en plus, si j'ai les chaussures, les bonnes chaussures, ces chaussures de l'évangile de paix où je me souviens que dans mon frère, dans ma sœur, ben il est ce qu'il est, il en est là où il en est, mais le Seigneur est en train de faire une œuvre dans sa vie. Ça, c'est important. Quand on perd de vue ça, eh ben, on rame. On n'a plus les ailes. Les ailes du zèle. Alors, c'est lourd, on a des chaussures en plomb, pesant, et notre vie chrétienne est lourde. Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que les armes de Dieu vous intéressent? Est-ce que vous voulez prendre la décision qu'il n'y ait plus aucune place pour le mensonge dans votre vie?
sur vous
la vérité comme ceinture pour vos reins spirituels. Vous êtes des chrétiens sauvés parce que pas de compromis avec la vérité. Est-ce que vous voulez décider de faire ce qui est juste? Pas parce que vous avez forcément envie, oh, aujourd'hui j'ai envie, pas envie, ça me plaît, ça me plaît pas, j'ai pas envie d'aider mes vies. Je fais ce qui est juste avec moi. Et je décide, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, de faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est ce que Dieu me dit. Quand j'en ai envie, tant mieux. Quand j'en ai moins envie, je fais pas ce qui est juste. Et puis enfin, est-ce que je veux vraiment rentrer dans ce plan d'ensemble où Dieu transforme des vies? Et j'ai pas face à moi des gens, des ennemis, des adversaires, mais j'ai en face de moi des êtres humains en qui Dieu veut agir. Parce qu'il les aime, c'est parce qu'il veut transformer la vie. Alors, quand j'aurai un voisin pénible en face de moi, quand je peux me souvenir que Dieu l'aime et qu'il veut toucher sa vie, qu'il veut le transporter du royaume des ténèbres à la lumière, ça change mon regard et ça m'aide à pas lutter contre le pantin de voisin qui est le mien, mais à voir au-delà. Avoir le combat spirituel contre mon âme, mais aussi pour son salut. Est-ce que nous voulons prendre la décision de parler de Jésus aux autres? Mettre à nos pieds les chaussures de l'évangile. Prions. Seigneur, nous n'avons pas toujours conscience que nous sommes dans un combat. Ce combat, c'est pas nous qui l'avons initié. C'est notre affaire, faire le diable. Et tu veux nous en rendre bien conscients. Et tu veux nous engager à être dans la résistance. Et non pas dans le laisser-faire, dans la passivité, dans la mollesse. Tu nous invites d'abord, Seigneur, à protéger notre cœur, protéger notre âme, en revêtant toutes tes armes. Seigneur, dans tes armes, il y a la vérité, qu'elle règne dans nos vies. Il y a la justice, faire ce qui est juste, renoncer au péché. Et il y a cet évangile, cette bonne nouvelle de la transformation à laquelle nous prenons part. Que nous puissions revêtir déjà ces armes-là. Et puis, Seigneur, venir auprès de toi, parce qu'une fois que nous avons ces armes, peut-être elles nous semblent lourdes. Comme David avec l'équipement du roi Saül. Peut-être tout ça, Seigneur, on se dit, je suis trop faible. Alors justement, Seigneur, tu nous invites à venir nous fortifier par ta force puissante. Seigneur, que nous puissions venir nous asseoir avec Jésus pour prendre nos forces. Renouveler nos forces. Et tu es fidèle et tu le feras. Alors, il le faut, Seigneur, que nous puissions nous engager à nouveau à être des soldats prêts. Plutôt que des soldats en dilettante qui s'embarrassent de tout et de rien et qui sont profondément vulnérables et fragiles. Au nom de Jésus. Amen.